Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode booster d'Entreprendre dans la Santé, j'ai échangé avec Manon Cauchois, l'hôte du podcast Talk, Entreprendre dans la sexualité, et cofondatrice du concept store Talk Univers. Le but de ce format plus court est de plonger dans une thématique propre à l'entrepreneuriat dans la santé et d'en comprendre les enjeux et challenges. Dans cet épisode booster, Manon nous explique pourquoi entreprendre dans la sexualité en 2020, quels sont les challenges propres à ce milieu quand on se lance, quels éléments mettre en place pour les surmonter afin de réussir dans la sextech et dans l'entrepreneuriat dans la sexualité en général. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé Booster spécial. Je suis avec Manon Cauchois de chez Talk. Salut Manon, ça va ?
Salut, très bien, et toi ?
Bah nickel. Bon, aujourd'hui, on va parler d'entreprendre dans la sexualité. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu qui tu es, d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi. Et puis après, que tu nous parles un peu de ton initiative avec Talk, de l'univers que tu as créé et du podcast que tu as lancé.
Alors du coup, moi c'est Manon, j'ai 25 ans déjà. Et à l'origine, en fait, donc moi je viens de région parisienne, j'ai fait mes études à Sciences Po Lyon. Donc toi aussi tu débarques à Lyon, c'est une ville géniale, ouais, tu verras. Et à l'origine, évidemment, j'ai voulu faire Sciences Po Lyon parce que je voulais faire des relations internationales, parce que je suis franco-japonaise, parce que voilà, je voulais aller dans cet univers-là, plutôt de la fonction publique finalement. Et petit à petit, dans mes études, j'ai vu que ça allait pas me correspondre ou que j'allais pas pouvoir avoir beaucoup d'impact. Du coup, je me suis plutôt intéressée à tout ce qui était privé, entreprise, que ce soit le luxe ou même le tourisme. Et puis, du coup, j'ai fait affaires asiatiques et j'ai d'abord travaillé dans le monde du tourisme où j'ai fait l'intrapreneuriat. J'ai développé une agence de voyage spécialisée sur le Japon dans un groupe allemand. Et ça, en fait, ce sera long à expliquer, mais ça a confirmé mon envie.
Pendant que t'étais à Sciences Po?
Non, ça, c'était à la fin. J'ai fait rapide. C'était mon stage de fin d'études à Jap Aventura, ça s'appelle, à Berlin. Et en fait, j'ai continué pendant un an, un an et demi chez eux, beaucoup en télétravail après, parce qu'en fait je voyageais beaucoup, mon boulot c'était assez cool, j'étais pas mal payée pour voyager et créer des itinéraires. Okay. et bref, ça pendant tout ce temps-là, même si j'adorais ce que je faisais, je réfléchissais beaucoup à moi ce que je voulais faire comme boîte et quel type d'entreprise j'aimerais avoir ou projet j'aimerais monter. Il n'y a pas eu la sexualité du tout de suite, mais par contre, à titre personnel, en arrivant à Berlin, j'ai vraiment découvert une liberté que je ne connaissais pas en France et que je pensais avoir. Typiquement, à Sciences Po, pourtant c'est un monde où on parle beaucoup de sexisme, de féminisme, de liberté sexuelle. Voilà, c'est un endroit où on peut parler de ça et étudier, enfin pas encore assez, mais quand même plus qu'ailleurs. Et je me sentais pas spécialement concernée et je me sentais pas spécialement féministe, enfin dans le sens où bien sûr j'étais contre le sexisme, etc. Mais je ressentais pas le besoin de m'intéresser à tout ça. Et en fait, en arrivant à Berlin, me rendant compte qu'il y avait plus de liberté sexuelle, liberté même tout court, sur pas mal de choses, j'ai fait la comparaison, j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts. Bref, je me suis un peu... j'ai commencé à m'instruire à tous ces sujets-là toute seule. Okay. Et bref, donc à côté de ça, j'avais envie d'entreprendre. Et au bout d'un an, du coup, de ce travail-là, même si c'est trop bien, j'ai voulu aller du coup dans une école de commerce en master SP entrepreneuriat. J'ai choisi l'ESCP. Ouais. Et donc pendant ce master-là, on t'apprend à entreprendre, surtout à avoir ce mindset entrepreneurial. Enfin, c'est assez génial. Je pourrais faire une grosse pub là-dessus, mais c'est pas le moment. Et en fait, entre autres, j'ai présenté cette idée de vouloir proposer des solutions dans l'éducation sexuelle ou même dans l'épanouissement sexuel, dans le mieux-être sexuel. Je savais pas exactement de quelle manière je voulais aborder, mais je savais qu'il y avait plein de choses à faire dans le milieu de la sexualité quand je voyais ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons. Et sauf qu'évidemment, c'est pas forcément tout le temps bien accueilli, ou pas forcément par des profs, au contraire, mais plutôt par les gens de mon âge, en mode « ouais, mais y a rien ».
Ouais, c'était quoi les premières pensées des autres quand tu as commencé à en parler ?
C'est déjà forcément on ricane, ensuite c'est « mais c'est pas un sujet sérieux, enfin, je vois pas pourquoi on devrait entreprendre là-dedans, enfin, c'est quoi le problème en fait ?» Et alors que moi je présentais un truc, là c'était à l'époque où donc on apprenait à pitcher et là on présentait une version du projet en mode il y a eu un média qui s'appelait Sexy News et puis après on a voulu faire une application un peu sur le style des apps de coach sportif mais ou sportive ou même de méditation une app qui te voilà te fait découvrir des fun facts sur la sexualité ou qui te fait découvrir je sais
plus
pas
sur l'éducation là
voilà, qui te fait découvrir des pratiques sexuelles qui te fait découvrir des sex toys qui un peu genre pour t'amuser tu vois ou des notifications du style t'es-tu masturbé cette semaine genre as-tu pris soin de toi tu vois comme as-tu fait ta méditation aujourd'hui un peu de ce genre et mais vraiment on a toujours présenté des projets un peu drôles un peu positifs quoi.
Donc, entre fun bien-être et éducation un peu
exact
ça.
Et en fait l'une des remarques vraiment qui m'a marquée et dont je raconte tout le temps à force il va se reconnaître je pense mais c'est un mec de ma classe qui m'a dit mais je comprends pas enfin il faisait exprès sûrement mais moi j'ai pas de problème dans ma sexualité je suis pas là pour pointer tes problèmes si t'en as ou t'en as pas. Je veux dire, c'est juste pour proposer d'autres choses, pour découvrir, pour attiser ta curiosité, parce que je pense que ni toi ni moi, dans notre vie, on aura le temps de tout découvrir, que ce soit dans la sexualité ou autre chose. Et c'est juste une proposition de contenu, finalement, comme dans n'importe quel sujet. Et bref, ça dérange, quoi. Et peu importe la manière dont on prend le truc, la manière qui dérange le moins dans la sexualité, je crois que c'est la santé. Donc ça te concerne dans ton podcast.
Ouais, donc la partie bien-être plutôt, tu veux dire ?
Même pas, parce que parler de bien-être, c'est parler de plaisir. Et donc c'est presque superflu, superficiel et ça veut...
Ah, mais le plaisir, ça contribue d'une certaine manière à la santé mentale.
Bah, c'est ce qu'on essaye de dire et c'est ce que c'est le message qui est de plus en plus présent aujourd'hui à travers plein de comptes Insta ou à travers plein d'autres initiatives entrepreneuriales. Mais souvent dire bien-être, on parle aussi de mieux-être sexuel. Ça veut dire que ce que tu as déjà n'est pas suffisant. Donc en fait, ça peut toucher l'ego des gens. Et c'est pour ça, parler de santé, c'est plutôt s'attaquer à des problèmes du style éjaculation précoce, vaginisme, vois, à partir du moment que t'as mal ou t'es vraiment pas bien. Mais par contre, si t'es déjà bien dans ta vie sexuelle, mais que t'as envie d'essayer d'autres trucs pour peut-être avoir encore plus de plaisir, et ben là, on a plus de mal à intéresser
là,
les gens.
C'est moins regardé. Okay.
Donc, en gros,
d'accord,
voilà.
Donc du coup, à partir de cette app-là, c'est... Comment t'en es arrivé à ce que tu as fait aujourd'hui et qu'est-ce qui existe maintenant? Quelle initiative, en gros, qu'est-ce que tu proposes?
Alors, oui, du coup, pendant le master, finalement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas trouvé forcément l'équipe tout de suite. Enfin, il y avait pas mal de filles qui étaient intéressées par l'idée et tout, mais on réfléchissait pas mal ensemble. Mais finalement, on n'a pas travaillé dessus pendant l'année. On a un peu gardé ça de côté tout en discutant de temps en temps et chacune a fait d'autres projets. Et à la fin de l'année, il nous restait deux semaines de cours et il y a eu le confinement. Et forcément, même si on avait tout plus ou moins prévu soit d'entreprendre à la fin du master, soit même on avait pris du stage pour un peu des plans de secours, ça nous laisse pas mal le temps de réfléchir ce confinement. Et je me suis dit, je vais au moins faire ce podcast. Notamment l'un des derniers CEO talks qu'on a eu dans l'année, on a pu rencontrer Mathieu Stéphanie et j'en avais parlé à la fin de ce CEO talk. Donc,
tu dis CEO talk, c'est quelque chose qui est organisé par l'école,
c'est ça ? C'est nous qui organisons au sein de nos masters, c'est nous qui organisons nous-mêmes, qui essayons d'inviter des CEO qui nous intéressent et en fait on les accueille un peu en off. Ils viennent nous voir, donc on est à la classe, on est 30. C'est assez... ils nous racontent leur parcours, leur boîte, c'est hyper intéressant parce qu'on peut leur poser toutes les questions qu'on veut. Mathieu Stéphanie est intervenu pour Cosa Vostra, mais aussi pour... on a posé pas mal de questions sur son podcast, et à la fin, j'étais allée le voir avec mon idée de projet, je voulais faire un podcast sur la sexualité, mais je savais pas encore trop sous quel angle, je voulais avoir son point de vue sur ce milieu-là, s'il connaissait, et il m'a pas mal encouragé en mode, si tu fais ton podcast, fais-le, mais c'est un projet, mais fais-le dans 2 semaines et pas dans 3 mois, ou reporte pas. Bon, je l'ai pas fait sous 2 semaines, je l'ai fait sous 1 mois, mais, mais voilà.
Bon, pour resituer, Mathieu Stéphanie, c'est le autre créateur du podcast Génération Do It Yourself, donc on vous encourage à aller écouter, c'est bon. Si vous écoutez déjà des podcasts, il y a des grandes chances que vous soyez... passer dessus, c'est le podcast le plus écouté en France, je pense.
Ouais.
Donc, c'est sur l'entrepreneuriat. Il y a des personnalités vraiment inspirantes.
Exactement.
Donc, allez faire un tour.
Ouais.
Et donc, tu lances ça en 3 mois.
En gros,
Pendant,
ouais, pendant le confinement, j'ai un peu mal réfléchi et finalement, j'ai trouvé l'axe qui me plaisait, c'était entrepreneuriat et sexualité. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, c'était les deux sujets qui m'intéressaient le plus. C'est les deux sujets dans lesquels j'écoutais le plus de podcasts. Mais il y en avait, en tout cas, pas à ma connaissance en français, de versions qui proposaient les deux en même temps. Qui abordait des entrepreneurs qui avaient entrepris dans la milieu de la sexualité. Il y en a beaucoup dans l'un comme dans l'autre, mais pas ensemble. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça, super, peut-être que je trouve une petite niche. Et puis, en fait, c'était aussi un peu mon excuse pour aller à la rencontre de gens, faire un peu mon étude de marché dans ce milieu-là, parce que je savais que je voulais entreprendre dans le milieu de la sexualité, mais je n'avais pas encore trouvé sur quel sujet, de quelle manière, quel business model, à quel problème je réponds surtout. Et en allant interroger des gens qui l'ont déjà fait, bah, je me suis dit, ça allait forcément me donner des idées, mais quitte à aller les interroger, autant partager ses connaissances, parce que ce milieu-là est très peu connu, et que ce soit de toute façon l'entrepreneuriat ou la sexualité, les deux intéressent dans tous les cas, je pense. Donc voilà, et à la base, c'est clairement perso, mais je me suis dit, voilà, je partage. Et au bout de 3-4 épisodes, je me suis rendu compte que, bah, en fait, oui, j'avais vraiment envie d'entreprendre là-dedans. Et il y en a un de mes invités qui m'a très justement dit, bah, tu sais, quand tu veux entreprendre dans un milieu et que tu veux tester, le plus simple, c'est de faire un truc vieux comme le monde, c'est du commerce simple, l'achat-revente. Ouais. Et comme on avait déjà eu, il y a très longtemps, une idée un peu de renouveau du Love Shop, bon, qui n'est finalement pas ce qu'on fait, mais avec Camille, donc mon associé, on a un peu réfléchi à comment libérer la parole sur la sexualité, qui est vraiment notre motto, mais de manière hyper diverse. Donc, c'est pas que des sextoys, c'est pas que du lubrifiant, c'est pas que des produits de sex shop, mais c'est aussi de la mise en avant de travail d'artiste, d'objets de design, de lecture, de... Voilà, et à l'avenir, on espère d'événements.
Ouais, un concept store, quand même.
Exact, concept store.
Ok, nickel. Donc là, c'est que du e-commerce, c'est ça?
Ouais, pour l'instant, ouais.
Ok. Et donc, ça se passe comment? Alors, ce que vous vendez, tu as parlé d'achat-revente, ça veut dire que vous avez du stock à gérer?
Bah, un petit peu, mais en fait, j'ai découvert que, bah, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois, le milieu de la sexualité, c'est un milieu comme un autre, avec ses fournisseurs, ses grossistes, ses marques en direct ou pas. Et du coup, au début, forcément, je travaillais pas mal plus avec des grossistes que les marques en direct, c'est plus simple. Et ça te permet, en fait, de pouvoir commander et de le recevoir le lendemain ou 2 jours plus tard, et donc de commander à la demande, en fait, aussi de tes commandes à toi, de tes clients. Et parce que c'est aussi des grossistes qui souvent proposent du dropshipping, ça existe beaucoup dans le milieu de la sexualité, enfin même... dans d'autres domaines, évidemment. Mais évidemment, nous, on voulait quand même avoir un contrôle sur ce qu'on vendait ou sur des trucs qu'on n'avait pas encore pu tester. Donc, pour l'instant, on reçoit, on réempacte tout, on met nos petits mots, on met nos échantillons. On espère bientôt créer notre propre contenu pour vraiment faire des super modes d'emploi hyper illustrés, vraiment des cartes d'accompagnement pour que les gens ne soient pas perdus quand ils reçoivent leurs sex toys. Parce que même si les produits sont très bien faits par les marques, le packaging peut être super bien fait, mais le mode d'emploi n'est pas encore très bien fait, quoi.
Ouais, donc vous repackagez ça avec votre propre marque.
C'est ça.
Et vous rendez ça un peu plus sexy, du coup.
Exact. Ou plus accessible, plus... voilà.
Ouais, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que là, chez toi, actuellement, c'est genre un entrepôt sur la sexualité, quoi.
C'est, alors, y a ça de va, tout, c'est pas encore un entrepôt.
Des jeux de société, bijoux et
sexy. C'est pas encore un entrepôt, mais ouais, là, ça va. J'ai essayé de pas trop avancer non plus en termes de stock. J'arrive à m'en sortir. J'ai 3-4 cartons dans ma chambre. Pas de problème.
Ça fait quoi, du coup, enfin, t'as lancé ça quand par rapport au début du podcast? Parce que c'est dingue, quand même, tu t'es dit... enfin. On a lancé un peu nos podcasts en même temps. Enfin, moi, je l'ai lancé quoi, en juin, quelque chose comme ça. Ouais. Mais toi, t'es allé, on va dire que t'as été un TGV pendant que moi, j'étais un TER, tu vois. T'as déjà un site, tu fais déjà des ventes. Bon, moi, je sais pas si je pourrais vendre quelque chose actuellement. C'est pas exactement le même créneau, mais ça fait quoi d'aller aussi vite, en fait?
Bah ça, non, je sais pas si j'ai été un TGV, parfois moi j'aimerais, enfin merci, mais j'ai pas l'impression que ce soit assez parfois, ou peut-être parce que du coup je fais trop de trucs en même temps, je sais pas, mais au début tu vois je les avais pas mis ensemble, je les voyais pas forcément ensemble, alors qu'en fait si, et on a fusionné le podcast et par exemple le compte Insta du podcast et de la boutique il y a très peu de temps, donc on a lancé le podcast, au début j'étais toute seule sur le podcast, j'ai lancé le podcast en avril, fin avril, Et avec Camille, de toute façon, on discutait déjà de faire un projet ensemble. On a lancé la boutique en mai, mais officiellement vraiment en juin. Okay. Donc ouais, mai-juin. Et en fait, je sais pas, je pense que le fait d'être allé aussi vite, c'est un peu ce qu'on m'a appris toute cette année. C'était en mode ce qu'on appelle des crado tests, tests directs, tes idées. Ouais. Voir si ça marche, le premier euro, voir si les gens sont capables d'acheter ce que tu proposes, de te faire des retours, des commentaires, des suggestions. Ouais. Et en fait, donc on a vu que voilà, on pouvait faire des ventes, on a vu que nos problèmes, forcément ça intéresse, qu'on a de plus en plus d'interactions sur Insta, mais on a aussi vu tous les problèmes.
C'est quoi les challenges principaux
Alors, comme tout site internet et surtout e-commerce, c'est évidemment le trafic. Faire venir du monde sur ton shop, mais par contre on a d'autres problèmes
propre à la sexualité,
sexualité que j'ai pas mal recensé dans le podcast, et c'était le but d'ailleurs, c'était d'être prévenu des problèmes qu'on allait rencontrer qui se sont assez avérés vrais. C'est évidemment la censure sur Instagram. Mm-hmm. Et Facebook qui sont...
J'ai vu un post là-dessus récemment. Ouais. C'est fou. Alors, c'est... que tu peux pas faire des pubs, c'est ça.
Bah, déjà, tous les gens, même qui ne sont pas vendeurs ou entrepreneurs, qui parlent de ça sur Instagram, sont censurés très vite. Mmh. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un compte hyper artistique. Enfin, oui, c'est un dessinateur, une dessinatrice. Je ne connais pas personnellement. Le compte s'appelle La Bonne Censure. Et ils se sont fait virer leur compte, supprimer leur compte sans avertissement, rien du tout. Et donc, en soi, ce n'est pas forcément peut-être la faute que d'Instagram, mais aussi c'est les gens qui signalent. C'est un ensemble de choses, mais bon, on voit aussi des trucs bien plus à la limite du porno qui sont pas du tout censurés, donc on comprend pas trop. Et donc évidemment, en tant qu'entrepreneur, dès que tu veux faire de la pub d'objets plus ou moins liés à l'érotisme ou à la sexualité, ça passe pas. Mais ça passe quand même parfois, donc c'est bizarre, parce que sur Instagram, c'est mort, on n'a pas l'onglet shop. Par contre, sur Facebook, on a la moitié de nos produits qui sont passés quand même. Mais il y a quand même des trucs en mode, je crois qu'il y a un masturbateur de la marque Tenga qui est passé quand même. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça dépend peut-être de ce qu'on a mis en description de produit ou en métadescription. Mais on n'a pas non plus envie de trop se prendre la tête sur ça. On sait que ce n'est pas sur Instagram, sur Facebook qu'on va vendre le plus. Et peut-être pas non plus sur Instagram. Ce qui compte, c'est faire venir sur...
C'est quoi ? C'est le podcast ?
C'est du référencement naturel.
En parler autour de vous.
C'est de la presse traditionnelle. Dès qu'on aura l'occasion de faire de la presse traditionnelle, je pense que ça va nous aider. C'est des partenariats, des concours avec d'autres comptes. C'est beaucoup d'organique qui va nous aider. Et aussi, ce qu'on a envie de faire, alors c'est pas du tout encore sûr, mais c'est d'être un peu plus présent physiquement à travers des pop-up shops. On en a fait un en juin, puisqu'on a été invité par des organisatrices qui ont créé le Pop Hot Store. C'est leur première édition, et avec plein d'autres marques qui traitaient plus ou moins de la sexualité. Et la prochaine fois, on aimerait bien faire une version à nous pour aussi nous tester si ça nous plaît, tu vois, d'être en physique.
Franchement, il y a plein de choses à faire.
Voilà, il y a plein de formats à faire. Donc ce premier problème qui était la censure, le problème du financement, on l'a pas trop encore parce qu'on n'a pas essayé de lever des fonds ou de faire une campagne de crowdfunding ou quoi. Mm-hmm. Mais par contre, installer Stripe, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Bon, c'était un peu plus d'emails que la normale. C'était pas aussi rapide que Stripe l'est habituellement. Mais je savais que, typiquement Climax, qui est la première série éducative dédiée au plaisir féminin. Donc, clairement, c'est des techniques de masturbation féminine face cam. Pas du tout vulgaire ou comme ou quoi. Hein. C'est vraiment super bien fait. C'est entre le scientifique et un peu l'érotisme, parce que c'est quand même hyper bien fait. Tu vois, forcément, c'est très explicite comme image. Elle est passée en commission, je sais pas quoi, d'éthique au niveau de Stripe. Donc, je savais qu'elle avait quand même réussi à avoir Stripe. Donc, si elle avait réussi à l'avoir,
Lorraine Dorléac, en ouvrant e-commerce,
moi, je devrais pouvoir l'avoir. J'avais cette dernière carte en main si jamais il me bloquait une dernière fois. Mais tu vois, par exemple, ils retiennent l'argent sur la plateforme Stripe plus longtemps. Alors, j'ai plus les dates, le nombre de jours en tête, mais ils la retiennent plus longtemps avant de nous la reverser, parce qu'ils partent du principe qu'on est un milieu où il va y avoir des litiges. Alors, pour l'instant, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de problème de...
C'est ma question. Est-ce que vous allez réfléchir, par exemple, à créer vos propres produits ? Tu as parlé de campagne de crowdfunding. Parce que j'imagine qu'à un moment, c'est le produit qui va vraiment faire la différence. C'est si vous allez offrir de la qualité. Outre le branding qui sera peut-être super shiny.
Bah, c'est exactement ce à quoi on réfléchit en ce moment. Après, tu vois, développer un sextoy, par exemple, si on reste là-dessus, ça prend 2-3 ans.
Ouais,
Ou un lubrifiant même, tu vois, si c'est quand même la recherche et
un
développement.
lubrifiant, c'est vu comme ouais, faut faire des, je sais pas ce qu'il faut faire comme essai, mais ça doit se rapprocher de, je sais pas, c'est comme une
Ah,
crème à mon avis,
c'est pareil, en plus, tu as tous les tests
comme
dermato-gynéco.
des essais cliniques à moitié, ouais,
Ouais.
c'est
Du coup, je suis pas sûre qu'on a envie, pour l'instant, je sais pas, de partir sur vraiment la conception de produit, créer un produit, c'est vraiment
ouais, ça
particulier.
c'est un autre business
À
quoi, ouais.
part, après, on pourrait très bien passer par créer en marque blanche des
Ouais.
super fabricants de sextoys et de lubrifiants. Donc, lubrifiant, ce serait évidemment en France, mais sextoys, pour l'instant, ce serait en Chine. Et il y en a, faut pas avoir peur de la Chine, malgré tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Il y a des très belles usines, super design, super propre, super bien, super quali, qui fabriquent en Chine. Et voilà, ça c'est une idée, mais pour l'instant, on n'est pas trop parti là-dessus. On va voir. Mais si on part sur en tout cas du crowdfunding et vraiment des produits physiques plus à nous, ce sera, on fera peut-être du crowdfunding en janvier ou février l'année prochaine. Mais voilà, on ne vous dit pas tout de suite ce que ce sera. Après, créer plus notre propre contenu, peut-être en termes de, tu vois, peut-être une sorte de magazine ou un carnet qui accompagne les produits qu'on vend, un modèle un peu plus Birchbox ou Prescription Lab, je sais pas si tu vois. Et voilà, peut-être ce genre de choses. Mais rien d'officiel pour le moment.
Bon, bah, ça promet. Et une dernière question, toi, c'est quoi l'impact que tu veux avoir sur le secteur de la sexualité à travers le Talku Univers et le podcast?
Bah, nous, vraiment notre motto pour l'instant, comme je disais, c'est libérer la parole autour de la sexualité. Donc, peu importe la manière dont ça prend, nous, on va prendre celle qui prend le mieux, tu vois. Et on veut vraiment enlever ce tabou-là. Alors, évidemment, c'est utopique, une vision comme ça, c'est difficile de quantifier. Au moins que voilà, d'ici quelques années, on n'ait plus honte de rentrer dans un magasin où on achète ce genre de produit. Que tu vois, il y a déjà passage du désir, c'est une manière de le faire. Nous, on a envie de le refaire à d'autres manières. Et outre acheter des produits, qu'on aille à des conférences ou qu'on aille se renseigner et s'auto-éduquer sur ce sujet-là sans honte, sans gêne, jusqu'à ce qu'il y ait plus de masters. En genre et en sexualité en France. Il commence à en avoir, mais très peu par rapport à d'autres pays. Et voilà, du coup, on veut peut-être aller voilà, autant sur l'achat de produits comme ça qu'un peu sur la formation de l'éducation, que ce soit à travers d'événements éphémères ou peut-être un lieu plus physique et plus en dur. Mais voilà, on veut avoir cet impact-là. Après, c'est le début, tu sais, ça va peut-être changer et
Bah
on
oui,
part sur la
c'est
sexualité,
normal.
mais je pense qu'il y a pas mal d'autres sujets tabous que j'ai envie de toucher un peu à travers le concept store, mais on verra.
Bon, c'est super. Est-ce que tu as une personne à suivre, une ressource qui t'a inspiré sur la sexualité récemment?
Là, je suis en train de lire en ce moment. Il y a plein de choses, mais en ce moment, je suis en train de lire. Alors, j'ai plus le titre exact. C'est 2069. Je pourrais t'envoyer le livre. C'est
Ouais,
un ensemble
ça
de
marche.
nouvelles d'un écrivain français. Qu'on peut trouver chez la Musardine, c'est une librairie à Paris spécialisée dans tout ce qui est érotisme, sexualité, etc. Et en fait, ça, c'est plein de petites nouvelles qui imaginent voilà, de la sexualité ou des histoires de couple ou juste des histoires d'amour en 2069. Alors évidemment, le titre est fait exprès. Et c'est franchement assez drôle et ça fait aussi réfléchir par rapport à potentiel développement de nouvelles technologies et de nouvelles formes de relations humaines. Et ouais, c'est assez marrant. Je pense que c'est une manière assez facile et sympa d'aborder la sexualité sans, tu vois, sans gêne, sans avoir peur. Voilà.
Top. Bon, bah, vous aurez le lien dans la description. Merci à toi, Manon.
Merci à
Et
toi.
puis, bah, je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite avec
Bah,
Talku.
toi aussi. À très bientôt.
Allez,
Ciao.
à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.